BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et à l'issue de cette semaine de la mobilité, nous allons recevoir les patrons de deux belles entreprises françaises de ce secteur. Tout d'abord, François Ligier, qui est avec nous en plateau. Ligier, marque historique de la Formule 1 jusqu'au milieu des années 90. Désormais, le groupe, qui est toujours basé près de Vichy, est le leader européen des voitures sans permis. Et François Ligier va même nous annoncer le lancement d'une gamme électrique en 2023. Deuxième invité de l'émission, Baptiste Fulen, cofondateur de la marque de vélos à assistance électrique EOVOLT, des vélos pliables. On est là encore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. EOVOLT vient d'annoncer une levée de 16 millions d'euros pour poursuivre son développement au moment où, vous le savez, Elisabeth Borne souhaite faire de la France une nation du vélo. Enfin, dans cette émission, nous reviendrons aussi sur les ambitions d'une autre marque de vélo, Voltaire, vélo électrique haut de gamme, au look très années 50. L'entreprise vient elle aussi de réaliser une levée de fonds. Et à propos de levée de fonds, eh bien, la semaine qui s'achève a été marquée par la reprise des gros tours de table. Près de 700 millions d'euros levés au total par les start-up Innovafi, de The Plug et Bump. Au premier semestre, le chiffre global était déjà à 8 milliards d'euros levés. Tout cela montre bien que nos start-upeurs, nos start-upeuses gardent le moral et la confiance en l'avenir malgré la rentrée économique plutôt compliquée. C'est en tout cas ce qui ressort, cet optimisme, d'un baromètre EY et France Digital qui est venu commenter cette semaine sur notre antenne. Franck Sebag, associé chez EY.
La French Tech va bien, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le semestre, plus 63% de levée de fonds par rapport au semestre précédent.
On est à 8 milliards là, sur un semestre.
Hein. 8 milliards sur un semestre, alors... Après, voilà.
Non, mais bon, il n'y a pas que les levées de fonds dans la vie.
Et puis, ça s'est un peu ralenti quand même.
Ouais.
Donc, même si on est très heureux là, d'avoir ces trois annonces. Les startups vont bien et dans l'écosystème. Et ce qu'on a vu, nous, dans l'étude, c'est que c'est un écosystème qui continue à grandir et s'internationaliser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on a fait ce baromètre et on voit que ces startups continuent à grandir en chiffre d'affaires. Et l'internationalisation est un facteur clé, en fait, de croissance. On voit qu'elles sont à 31% de leur chiffre d'affaires est international. Donc c'est voilà, tout ça est très positif sur cette première partie.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous les avez interrogés sur leur perspective de recrutement, de progression du chiffre d'affaires, et là encore c'est quand même dans l'environnement qu'on est en train de vivre, économique qu'on vit, c'est formidable de voir ces résultats, hein.
Alors ce qu'on voit, c'est qu'on les a interrogés sur le passé, mais aussi sur les 6 prochains, ouais. Sur l'année 2022. Donc pour 90% d'entre elles vont recruter en 2022.
23% d'augmentation de revenus en 2020-2021, une prévision de doublement de chiffre d'affaires en 2022. Il n'y a rien qui peut assombrir le tableau. On vient de faire 10 minutes de débat d'Ozaniel en annonçant soit la fin du monde, soit une super année 2023. Mais les startups, elles sont confiantes. On n'est pas ébranlés, ne serait-ce que dans l'humeur, quoi, ça va, quoi.
Bah, les start-upers sont optimistes. Pour être entrepreneur, il faut être optimiste déjà. Voilà, donc c'est une donnée de base, sinon ça ne marche pas.
Bonjour François Ligier.
Bonjour.
Est-ce que vous aussi vous êtes un entrepreneur, un PDG optimiste et confiant comme le sont les start-upers dont on vient de parler dans cet extrait ?
Moi j'ai une grande conviction dans l'avenir. L'investissement nous porte, l'investissement crée le futur et l'aléa. Peut-être à venir, ne doit pas nous empêcher d'investir pour ce futur.
Un message que l'on aime bien dans cette émission. Cette semaine, c'était donc la semaine de la mobilité. On va donc parler et faire un zoom sur deux entreprises performantes dans le secteur. Alors, on va parler de Ligier Group tout d'abord. Expliquez-nous le cœur d'activité de votre groupe et on remontera un peu le fil de l'histoire parce que la marque est très connue des Français dans quelques instants.
Ligier Group, c'est une jeune start-up de 50 ans qui a eu plusieurs vies et sa vie récente est faite de mobilité. Mobilité des personnes d'un côté avec ses fameuses voitures sans permis et puis mobilité des biens de l'autre côté avec des véhicules utilitaires qui servent par exemple pour la poste à transporter le courrier mais aussi les colis.
Alors ce pivot, parce qu'évidemment donc moi je fais partie d'une génération qui a connu la marque Ligier en Formule 1, c'était dans les années 76 à 96, c'était bien sûr sous l'impulsion de votre grand-père Guy Ligier. Ce pivot, il s'est fait quand? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? C'est votre père qui l'avait entrepris? Comment s'est fait cette transformation de l'entreprise, toujours basée, je le précise, à Bray, c'est près de Vichy.
Exactement, voilà, on est fiers de notre territoire. Et alors Guy Ligier qui est né à Vichy finalement, hein, il a créé son entreprise, sa première entreprise qui était une entreprise de travaux publics. Le travaux public lui a permis de se créer un confort de vie qui lui a financé sa passion du sport automobile. Et puis la passion du sport automobile est devenue le métier en créant sa première Formule 1 et sa première écurie de Formule 1. Mais il avait toujours deux pieds, un pied dans la Formule 1, dans la compétition, dans cet univers-là, et puis un autre pied dans l'industrie avec, dès les années 80, les voitures sans permis. Et Guy Ligier a rapidement laissé cette activité du sans permis à mon père, qui l'a développée avec ambition, qui a construit cette marque à l'international. Guy, lui, est resté concentré sur ses Formule 1. Et puis moi, j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise en 2014. Alors, j'ai joué en 2005. Et puis en 2014, on a créé une autre ambition en diversifiant l'entreprise à la fois sur le sans permis, mais aussi sur le véhicule professionnel.
Et ça s'est imposé, cette succession. Est-ce que vous êtes dit, c'est naturel que je prenne la suite de mon grand-père et de mon père? Ou est-ce que vous avez peut-être d'autres ambitions, mais le nom, le prestige du nom et de la marque vous ont rattrapé?
Alors, comme beaucoup, je ne dis jamais comme mon père. Et puis, évidemment, on a un patrimoine, et ce patrimoine, il faut le faire vivre. Alors, c'est une grande fierté d'avoir participé à cette aventure, et puis avec tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise qui, chaque jour, accompagnent aussi le projet.
Alors, vous parliez des voitures sans permis lancées par votre grand-père. On a tous l'image un peu de ces pots de yaourt, comme on disait. Ça faisait du bruit, ça roulait pas, ça gênait les autres automobilistes. Comment s'est opérée cette mue de ces véhicules-là, que je qualifierais donc de pots de yaourt, hein, ce que vous appelez même, parce que vous ne dites pas des voitures sans permis, mais des quadricycles légers? Comment s'est faite la mue?
Alors, quadricycle léger est un terme très technique et pas très marketing, à vrai dire. Et puis, nos nouveaux clients les plus jeunes, dont je parlais dans un instant, les appellent les 100P. Encore une autre façon de leur donner un nom. Ces véhicules sans permis, historiquement, ils étaient plutôt vendus en milieu rural, plutôt à des personnes âgées. Et puis, on avait traditionnellement une clientèle qui voulait pas être identifié, qui ne pouvait pas être caractérisé comme étant celle qui n'avait pas le permis de conduire. Et donc on faisait des véhicules qui étaient très discrets, très passe-partout. Et puis en créant notre marché au travers de l'Europe, on a rencontré des nouveaux marchés, et notamment l'Italie, où en Italie, très rapidement, nous avons eu un succès auprès de jeunes publics. Et ces jeunes publics, à l'inverse, voulaient être fiers de leurs produits et nous demandaient un design beaucoup plus affirmé, un design beaucoup plus ambitieux. Et donc on a commencé comme ça, en révolutionnant le design du produit. Et puis après le design, on s'est attaqué au marketing, à l'image, à la façon de communiquer. Alors les réseaux sociaux ont été pour nous un accélérateur fort. D'abord les parents qui voulaient amener de la sécurité à leur adolescent, et puis maintenant, aujourd'hui, les adolescents qui réclament à leurs parents de leur offrir une sans-paix.
Et donc les cibles, c'est les seniors, vous en avez parlé, ça continue. Et les jeunes, parce que depuis, je crois, 2014, on peut conduire une voiture sans permis, en tout cas en France, dès 14 ans. C'était pour vous un marché qui d'un coup s'est ouvert de manière phénoménale.
Une nouvelle opportunité importante, ce marché du 14 ans, via le permis AM, un permis qu'on passe à l'auto-école, on peut conduire un véhicule sans permis ou un scooter de la même manière dès 14 ans en France. C'est 15 ans en Allemagne par exemple, c'est 16 ans en Norvège, c'est 14 ans en Italie également. Et bien ce marché des plus jeunes est un marché qui est en forte croissance pour nous, un marché que l'on pousse et que l'on accompagne, mais ce n'est pas notre seule cible, puisque nous vendons aussi, je l'ai dit, à des personnes plutôt âgées, plutôt en milieu rural, qui cherchent de l'indépendance, qui cherchent de la mobilité, mais aussi à des actifs, des jeunes actifs qui n'ont pas passé le permis de conduire
ou qui l'ont perdu.
Alors, le retrait de permis, très peu finalement, parce que vous n'achetez pas une voiture à 12-13 000 euros pour quelques mois. Et donc, on voit un petit peu loueur qui rend service à ces utilisateurs-là. Mais le point commun entre nos petites personnes, nos personnes âgées, nos adolescents et puis nos jeunes actifs, eh bien, c'est la mobilité. C'est cette capacité à pouvoir se déplacer malgré le fait qu'elle n'ait pas le permis de conduire. Et même si dans les grandes agglomérations, la mobilité est révolutionnée et se retransforme tous les jours avec des tas de solutions, dans les zones un peu plus rurales, dans les villes secondaires, eh bien,
ça reste important.
Ça reste un vrai sujet.
C'est très, très important. Vous parliez de gamme de prix. À l'heure actuelle, j'avais vu sur votre site entre 10 400 et un peu plus de 17 000 euros selon les modèles et les finitions. C'est bien
nos,
ça
nos gammes de prix vont de 10 000 euros à 16 000, 17 000 euros suivant les équipements. Et puis, on est capable comme ça de couvrir une grande largeur du marché. Alors, certains clients vont chercher un véhicule plus simple. Et pour ça, on a la marque Microcar qui apporte toute sa valeur.
Une marque que vous avez acquise, vous êtes rapproché en 2008.
Voilà, une marque Microcar qui est rentrée dans le giron de Ligier en 2008 au travers d'une acquisition qui était un concurrent. Ouais. Et puis la marque Ligier, elle est positionnée plutôt sur un segment où on a un client qui va chercher de l'innovation, qui va chercher de l'équipement, qui va chercher du confort. Et on apporte la direction assistée, on apporte Android Auto ou Apple CarPlay, on apporte des équipements climatisation, enfin tous les équipements qu'on attend d'un véhicule.
Et le pot de yaourt, il est fini. Le pot de yaourt, c'est fini. Maintenant, ce sont de vraies voitures avec toute cette gamme d'équipements.
C'est bien ça. On a des véhicules qui sont évidemment très valorisant dans leur présentation et dans les capacités qu'a le client à les customiser.
Les chiffres clés, est-ce que c'est un marché dynamique et vous, comment vous en bénéficiez? Je crois que vous êtes même au-delà des 50% de parts de marché sur, là je parle des voitures sans permis pour les particuliers, dans toute l'Europe.
On a un marché qui est en très forte croissance, un marché qui se révolutionne partout dans tous les pays européens. On fait 60% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, quasiment 60%. Part de marché en Europe, effectivement, est très haute. Alors, on était à 50% il y a encore peu de temps, nous sommes passés maintenant à quasi 40%, puisqu'on a un nouveau concurrent qui s'appelle Citroën qui est arrivé sur notre marché. Ouais. Et ce concurrent a animé
avec
le marché.
Avec sa petite amie, c'est ça.
Avec la Citroën Ami, qui nous a apporté beaucoup de succès, qui a fait grandir de façon spectaculaire le marché. Et donc, on est fiers de partager notre produit qui était un produit marginal avec un constructeur généraliste finalement qui apporte la crédibilité à ce marché.
Le circuit de distribution, vous êtes présent dans une vingtaine de pays d'Europe ?
Nous sommes présents dans quasiment tous les pays d'Europe. On a encore un peu de succès et d'ambition sur certains marchés de l'Est qu'on attaque par le véhicule d'occasion. Et là, on pourrait rentrer dans un débat de réutilisation, de refurbishing des véhicules. Et puis, tous ces pays sont couverts via des réseaux soit d'importateurs, soit des filiales de distribution en direct.
La production, si mes chiffres sont à jour, en 2021, près de 16 500 véhicules produits, 570 salariés. C'est en augmentation. C'est en train de bouger sur 2022 et 2023.
Oui, on progresse à peu près de 20% par an. Nous avons fait 176 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Nous embauchons à peu près 50 CDI par an depuis 5 ans maintenant. Donc une croissance forte de l'activité de l'entreprise.
Et donc ça, c'est dans l'Allier, c'est du côté de Vichy, mais c'est aussi, vous avez aussi un site de production en Vendée à Bouféré. C'est dans les deux sites que la progression se fait.
La croissance de l'activité est portée évidemment par nos deux sites. Nos deux sites qui ont des missions, un site qui est plutôt dédié au sans permis et l'autre qui accompagne la croissance et l'ambition sur le marché du véhicule professionnel.
Et donc, on reste sur des modèles, évidemment, qui sont en pleine évolution. Et vous nous annoncez l'évolution principale pour 2023. C'est très tendance aussi. Même les voitures sans permis vont devenir électriques. Parlez-nous de Miley.
Nous lancerons un nouveau concept de produit dès la rentrée 2023.
On va voir quelques images, d'ailleurs. Des rares images un peu sombres, mais
on
va les voir.
On fait juste un peu de teasing pour le moment. On dévoilera le véhicule le moment venu, mais Miley, c'est une nouvelle ambition sur le sans permis. Vous parliez tout à l'heure de la révolution de nos voitures qui se sont transformées, qui sont plus du tout ringardes, plus du tout pot de yaourt, pour reprendre vos mots. Eh bien, quand elles seront en plus électriques, on passera définitivement à la barrière d'adoption que peut avoir notre véhicule. Et là, on apportera un véhicule avec un confort d'utilisation fort, avec une autonomie largement suffisante pour nos usagers, et puis un véhicule qui sera dans l'air du temps, puisqu'électrique, évidemment. Mais l'électrique est presque un détail. Avant tout, c'est un véhicule sans permis qui deviendra silencieux, qui deviendra confortable et qui apportera une grande satisfaction à ses utilisateurs.
La gamme Miley, à partir de quel prix quand ce sera au printemps 2023?
Alors, c'est encore un peu tôt, mais la gamme Miley sera échelonnée entre 12 000 euros et 18 000 euros, suivant les équipements, suivant les finitions. Ce qui est un vrai enjeu, parce que arriver à faire un véhicule électrique fabriqué en France à un prix concurrentiel, avec un bonus de l'État qui est finalement dérisoire sur notre activité si on le compare à celui de l'automobile, c'est là qu'est le challenge.
Juste, dernière question, je reprends votre mot, fabriqué en France, on est bien sur du fabriqué en France ou de l'assembler en France. Il y a toujours un peu cette notion ambiguë sur l'origine des pièces.
Alors, on a un véhicule qui est fabriqué en France, on fait nos carrosseries, on fait nos châssis, on fait l'assemblage complet du véhicule. Nos moteurs sur notre futur Miley viendront de chez Valeo en France. Nos batteries viendront d'une start-up qui s'appelle E4V, qui est également basée en France, au Mans. Et puis, notre véhicule est globalement français.
Eh bien, on est super content de ce véhicule français. On est content que vous restiez fidèles à vos racines auvergnates, à vos racines vichysoises. Merci beaucoup, François Ligier, d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir. Est-ce que vous faites du vélo électrique vous-même, à titre perso?
Alors, à titre personnel, oui, plutôt dans les montagnes bourbonnaises.
Ça monte peu, mais un petit peu quand même. Parce que l'on va parler, merci beaucoup, des merci VAE, dont le marché est très dynamique, avec 3 millions de ventes en 2021, ou presque, et un quart dans l'électrique. On va donc en parler dans un instant avec notre deuxième invité, Baptiste Fulen, cofondateur d'EOVOLT. Mais tout d'abord, on va parler des vélos Voltaire. Très joli nom pour cette gamme au look vraiment sympa, petit côté rétro années 50, ce qui n'empêche pas d'être aussi très technologique. Un de ces modèles est même équipé d'un système GPS et d'un système d'alarme en cas de tentative de vol. Et une autre question, où se cache la batterie? Eh bien, écoutez la réponse de Grégoire Liorade, le cofondateur des vélos Voltaire. C'était cette semaine dans Good Morning Business.
La batterie est sous la selle et donc c'est ce qui fait sa particularité, sa double particularité. C'est effectivement en premier lieu le design de ce vélo, puisqu'on a un vélo au design rétro. On s'est inspiré de vélos des années 50 et on a essayé d'incorporer le plus subtilement possible les éléments électriques. Et la deuxième particularité, c'est sa praticité. On a un vélo qui est pour les urbains qui vont au travail tous les jours avec leur vélo, et donc il leur fallait un vélo simple d'utilisation, et donc c'est là où on intervient.
Vous en avez livré 1000.
Mais oui, donc il y a beaucoup de bobos quand même. Ça marche bien. Il y a un marché.
Alors, on a découpé le marché français. Le marché français, c'est 660 000 unités l'année dernière. Et on l'a découpé dans ce qu'on appelle, nous, le segment urbain premium, 150 000 unités. Et effectivement, on a pris 1% du marché sur notre première année de commercialisation. Donc, l'objectif, ça va être évidemment d'aller chercher des parts de marché.
En Allemagne, apparemment.
Ouais, il y a plus, il y a un marché qui est plus conséquent en Allemagne. On a pour objectif dès l'année prochaine de s'internationaliser.
Alors, il coûte donc, combien quand même ce vélo ?
Alors, on a deux vélos. On a un vélo connecté qui vous plaira, Anthony,
mais bien sûr.
Et un vélo non connecté qui commence à 2200 euros. Donc 2200 euros, 2500 euros les deux vélos.
Vous avez fait deux levées de fonds, déjà 1 million puis 5 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quoi va servir cet argent et surtout où est-ce que vous l'assemblez, où est-ce que vous le fabriquez. On a vu certains de vos concurrents, je pense à Angel, qui a eu énormément de problèmes de production parce qu'il fallait effectivement ramener certains éléments de l'Asie, les assembler ou pas en France. Vous en êtes où, vous, dans le process industriel?
Alors le process industriel, pour nous, c'est clé et c'est lié à la levée de fonds puisqu'on a pour objectif d'internaliser l'assemblage. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est de la sous-traitance dans l'Est de la France, chez Cycle Europe Industrie.
D'accord.
Et donc, on a ce projet, dans les 6 mois, d'ouvrir notre propre usine d'assemblage.
Vous êtes toujours dépendant de l'Asie pour des éléments
obligatoirement
clés du vélo, le cadre, tout
ça. Obligatoirement, parce que c'est la structure même de l'industrie du vélo qui est ainsi faite.
Il n'y a pas de possibilité un jour de relocaliser ?
Justement, si. Il y a des vrais projets qui sont en cours, menés soit par des start-up, soit par des industriels, des industriels plutôt importants en plus. Mm-hmm. Donc, il y a des moyens qui sont mis, qui sont appuyés par les pouvoirs publics. Et donc, nous, notre objectif, mais à notre petite échelle, c'est de participer à cette réindustrialisation.
Voilà, donc je précise que Voltaire vient de lever 5 millions d'euros pour poursuivre son développement. Bonjour Baptiste Fulen.
Bonjour.
Alors on parlait donc à l'instant, on écoutait parler le patron de Voltaire sur la fabrication en France. Alors vous, vos vélos électriques pliables, ils sont fabriqués où ou assemblés où en France?
Alors on a une usine de production basée à Genasse, en région lyonnaise, où on a une ligne d'assemblage de 30 mètres de long. Ça a été pour nous très important dès le début de la société de créer cette usine de production en France pour justement créer de la valeur sur notre territoire. Mais ça a d'autres avantages, comme par exemple le contrôle de la qualité des produits, ce qui est très important pour nous. Quand on a notre propre usine de production, on peut contrôler totalement la production des produits.
Et faire un service après-vente éventuellement après aussi d'ailleurs.
Exactement. Donc avoir un service après-vente rapide et efficace, ça a été vraiment la clé de notre développement et ce qui a fait notre réputation jusqu'à aujourd'hui.
Alors, même question qu'à François Ligier, on est sur de l'assemblé en France, du fabriqué en France. Vous connaissez toute l'ambiguïté sur le pourcentage de pièces qui sont faites ici.
Exactement. En fait, l'industrie du cycle, c'est une industrie d'assemblage. Donc, on travaille avec des partenaires comme l'industrie automobile où on va venir assembler certaines pièces. On va développer des pièces comme le cadre, la fourche, dans notre cas, la batterie qui est située dans la tige de sel aussi. Et toutes ces pièces sont rapatriées dans une usine. On va monter l'ensemble du vélo de A à Z.
Et fabriqué en France, on a bien compris, c'est assemblé. Et même, je crois qu'il y a des pièces que vous êtes en train de rapatrier la production. Je pense au rayonnage des roues.
Bien sûr. Donc, on a déjà certaines pièces qui viennent de France, comme nos éclairages, nos selles qui viennent d'Italie. Et les roues, justement, c'est un des gros projets du moment. Nos roues seront d'ici la fin octobre, mi-octobre même, 100% fabriqués en France, que ce soit les rayons, les jantes. Et ça passe notamment par l'acquisition de 3 machines qui vont être installées d'ici quelques semaines dans nos entrepôts et des recrutements qui vont avec.
C'est-à-dire, vous êtes à combien de salariés à l'heure actuelle et vous allez passer à combien en intégrant, bien sûr, l'argent frais qui vient de cette levée de fonds, 16 millions d'euros, dont 11 millions, 5 millions en dette.
Pardon. Exactement. Aujourd'hui, on a environ 35 personnes. D'ici la fin de l'année, on sera environ une cinquantaine de personnes avec l'augmentation, justement, des capacités de production, puisque aujourd'hui, on a une capacité de production d'environ 1200 vélos par mois. D'ici la fin du mois, on attaque en 2-8, donc en deux équipes, ce qui va nous permettre de doubler les capacités de production et de passer à 2400 vélos par mois de capacité de production.
Alors, marché, je le disais, très dynamique. On a vu donc l'année dernière près de 3 millions de vélos vendus en France. Je crois que c'est 2,8 millions, un quart en électrique. Donc, vous êtes sur l'électrique. On va parler de votre gamme dans un petit instant. Mais ça vous porte évidemment cette tendance vélo. Et qu'avez-vous pensé? J'imagine que vous l'avez écouté, la première ministre Elisabeth Borne qui veut faire de la France une vraie nation du vélo avec un deuxième plan à 250 millions d'euros.
Exactement. Ce plan vélo qui était annoncé il y a 2 jours est une très bonne initiative. Une partie va être destinée justement aux infrastructures liées au vélo, donc aménagement de pistes cyclables, création de parking à vélo, puisque c'est un vrai problème aujourd'hui. Et deuxième partie de ce plan vélo qui est destiné à l'industrialisation de l'industrie du cycle, tout simplement en France. Donc, que ça soit l'assemblage de vélos ou même l'industrialisation de certains composants. C'est une très bonne initiative. On voit que le gouvernement met des efforts là-dessus.
Et les efforts, ils sont mis donc aussi pour les usagers, ils sont mis aussi pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un vélo. Alors vous, dans le cadre de la pliabilité, je crois qu'il y a un bonus spécifique qui s'applique jusqu'à la fin de l'année.
Exactement, il y a un bonus vélo électrique pliant global, mais plus particulièrement sur le vélo électrique pliant, où là on a un bonus qui va jusqu'à 1000 euros, donc 40% du prix du vélo jusqu'à 1000 euros qui est pris en charge par l'État pour favoriser justement l'intermodalité. L'intermodalité, c'est-à-dire pouvoir combiner son vélo avec des moyens de transport comme le bus, le métro ou le tram. Et nos vélos s'apprêtent particulièrement à ce type d'usage.
Ce soutien, que ce soit de l'État, des collectivités locales aussi, pour vous, j'imagine qu'il est fondamental dans votre développement. C'est important de se dire on n'est pas seul, on est soutenu. Et on le sait que toutes les incitations fiscales, quel que soit le domaine, ça a été dans les panneaux solaires il y a quelques années, c'est fondamental pour qu'un marché émerge. C'est votre cas.
Exactement, c'est le fait qu'il y ait des aides de la part du gouvernement, ça pousse déjà, ça fait parler du vélo, ça pousse également les gens à reconsidérer leurs moyens de déplacement, donc c'est très important pour nous. Chez Ovolt, on se bat pour que les citadins passent à des moyens de transport plus propres, justement en proposant des produits qui sont adaptés, qui répondent aux problématiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les villes qui se redessinent, il y a de plus en plus de citadins qui souhaitent passer à des moyens de transport plus propres, comme le vélo électrique. Mais il y a encore des freins à l'adoption de ce moyen de transport. On a toujours tendance à penser que le vélo électrique est lourd, encombrant. On a peur de ne pas trouver de place où le garer. On a peur surtout de se faire voler. C'est le principal frein à l'achat.
Absolument.
Et justement, chez Ovolt, on développe des produits qui sont adaptés, pliants, légers, compacts.
Alors, la pliabilité, on va voir quelques extraits de votre gamme, quelques images. Il y a trois noms qui sont très, très, très clairs. C'est le morning, c'est l'afternoon et c'est l'evening. Dites-nous un mot sur chacune de ces trois gammes. Celle du matin, pourquoi morning ?
Morning. Alors, le Ovolt morning, c'est le plus petit de nos vélos, le plus compact, le plus léger, c'est celui avec lequel on a commencé. Donc c'est un vélo en roue 16 pouces qu'on va pouvoir transporter dans le train, dans le métro, dans le bus, qu'on va pouvoir ramener chez soi sans problème. C'est vraiment un vélo électrique léger, compact.
1699 €.
Exactement, qui sort à 1700 €.
L'Afternoon.
Ensuite, on a le Ovolt Afternoon, donc qui reprend et qui se plie de la même façon que le Ovolt Morning, mais avec des un peu plus grandes roues, des roues de 20 pouces, avec une batterie un peu plus importante aussi. Donc on est sur un modèle un peu plus performant, mais du coup on perd en légèreté.
Voilà. Et on termine par l'evening, bien sûr, par la soirée.
Et alors, le evening.
Je précise que l'afternoon et l'evening sont à 2099 au prix de base.
Exactement. Donc le modèle evening, qui est notre dernier modèle en date, qui est pour le coup qui s'apparente à un vélo électrique classique. Quand je dis classique, c'est non pliant avec ses roues de 24 pouces, mais qui reste compact, comme on peut le voir juste derrière vous, en rabonçant la tige de selle et en abaissant également le guidon qui vient s'abattre sur la fourche. Donc on a un vélo qui fait 25 cm de large une fois plié.
Votre circuit de distribution, je crois que vous avez 600 revendeurs en France et dans plus de 10 pays européens, ça reste des chiffres d'actualité.
Exactement, aujourd'hui on a plus de 600 revendeurs dans toute l'Europe. Donc on travaille avec des magasins spécialisés cycle et mobilité électrique afin d'assurer un service après-vente et un suivi sur nos produits. Donc 600 points de vente dans toute l'Europe en effet.
Et au final, donc 50% de votre chiffre d'affaires à l'heure actuelle est à l'international, donc hors des frontières de France. Ça va. Vous souhaitez aller encore plus dans ce chiffre-là ?
Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a effectué cette levée de fonds. Cette levée de fonds, elle est destinée à quatre choses principales. La première, c'est tout d'abord d'augmenter nos capacités de production et de recruter en conséquence et d'adapter nos outils de production pour justement augmenter le volume de production. Deuxième point, c'est de se développer à l'international, on en parlait juste avant. Donc asseoir la notoriété qu'on a dans certains pays actuellement, mais aussi se développer dans d'autres pays, attaquer hors Europe et se développer à l'international. Troisième point de cette levée de fonds, ça va être également de développer de nouveaux produits, tout en améliorant les produits existants. Mm-hmm. Donc toujours en se concentrant sur l'usage et mettre l'utilisateur au centre de toutes les attentions quand on développe nos produits. Et enfin, cette levée de fonds va nous servir également à faire rayonner la marque en France et à l'international. Ces dernières années, on s'est beaucoup focalisé sur le produit, sur le savoir-faire, sur le produit, sur réindustrialiser l'assemblage, certains composants en France. Maintenant, il est temps pour nous de parler après le savoir-faire, le faire savoir, et donc faire connaître notre marque en France et à l'international.
Eh bien, le faire savoir, ça passe par un passage dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la France à tout
Merci
pour
à
réussir.
Vous d'avoir
réussi. Et la concurrence, d'ailleurs, elle est forte. On a parlé des vélos Voltaire, on a parlé des vélos MAD dans cette émission, etc. Est-ce que la concurrence est une émulation ou est-ce qu'il faut vraiment se battre au quotidien pour se faire son petit point supplémentaire de part de marché?
Alors, on voit de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le secteur de la mobilité électrique et du vélo électrique en particulier. La plupart de ces acteurs sont focalisés sur le vélo électrique classique. Quand je dis classique, encore une fois, c'est non pliant. Sur la niche du pliant léger compact, on a encore très peu d'acteurs. Et aujourd'hui, plus il y a d'acteurs, plus il y a de marché, on va dire.
Absolument.
Donc ça tire le marché vers le haut dans tous les cas.
Et d'où l'importance de faire connaître votre marque. Donc voilà, donc EOVOLT, jeune marque française, créée, je crois, d'abord à Bourges, puis rapatriée dans la région lyonnaise, que vous avez cofondée avec Lucas Chevalier il y a 5 ans. Et maintenant, 16 millions d'euros. Bravo à vous et longue vie donc à EOVOLT.
Merci beaucoup.
La semaine prochaine, on continuera à mettre à l'honneur l'industrie française avec le groupe Humo Beaupréau, c'est dans le Maine-et-Loire. C'est là que sont produites notamment les célèbres sandales en plastique, les méduses. On reviendra aussi plus en détail sur les trois grosses levées de fonds annoncées cette semaine. On en parlait, près de 700 millions au total pour InnovaFeed, The Plug et Bump. Bref, vous le voyez même, mais en cette rentrée parfois un peu morose, eh bien, la France a vraiment tout pour réussir. Très bon week-end, très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.